Voilà, c'est parti pour le petit chemin en forêt.
Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
On marche, quoi.
Hein? Oui.
Est-ce qu'après cette petite montée, ce serait pas le moment de faire une petite pause? Ouais, je pense qu'on l'a bien mérité. Ça a presque un goût de noisette.
C'est à toi, ça?
Des petits pains qui sont garnis à l'intérieur.
T'es pas dans une décharge ici, vieux. T'es dans un site que tu dois traverser avec respect. Et le respect, c'est pas de déposer tes crasses un peu partout. Bon, alors écoutez-moi bien. On va faire un contrat tous ensemble. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs. Ok?
Et si c'était l'été de la randonnée? Et si on avait envie d'appuyer sur marche après avoir été à l'arrêt sur son canapé, comme c'est arrivé à beaucoup d'entre nous? Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau d'été dont on va déguster. Balade, trek, bivouac, on fait des efforts, mais on veut aussi du réconfort. Le réconfort d'un pique-nique frugal et joyeux en pleine nature, en privilégiant des nourritures appropriées à la dépense d'énergie, en adoptant aussi la règle du zéro déchet et du zéro emballage. Nous sommes partis en balade dans le massif de Beldonne, à l'est de Grenoble, en compagnie de Cléa. Elle est marcheuse, cuisinière végétarienne et elle co-signe un nouveau livre très estival, Je mange bio, même en rando, recette nomade pour balade, cyclo, bivouac aux éditions Terre Vivante. Notre reportrice Pauline Boulet a apprécié sa petite cuisine de réchaud en plein air, vous allez le voir. On va découvrir son reportage tout au long de cette émission. Mais nous avons également avec nous, en direct, depuis le studio 521, Linda Louis, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous allez bien, Linda?
Très bien, en pleine forme.
On pourrait presque dire que vous êtes une habituée de ce micro.
Oui, je m'en plains pas.
La dernière fois, on a parlé noix ensemble.
On a parlé noix, c'était l'automne dernier.
C'était l'automne dernier. Vous avez assuré, chère Linda, les photos du livre, car vous êtes photographe professionnelle, mais vous êtes aussi spécialiste de la cueillette sauvage et de la cuisine champêtre et végétale. On va évoquer avec vous quelques questions pratiques que l'on se pose quand on part en randonnée. Quels fruits cueillir sur son chemin? Peut-on faire du feu, d'ailleurs, pendant nos bivouacs? Et puis, vous nous avez apporté de savoureuses recettes pour pique-niquer avec esprit, parce qu'il n'y a pas que le jambon beurre dans la vie. Il y a aussi de très bonnes recettes et végétariennes de préférence. Si vous avez des questions, amis auditeurs, ou des recettes nomades à nous faire partager, vous nous envoyez un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien depuis le bouton intervenir sur l'appli mobile de France Inter. Et puis je suis ravi d'accueillir à nouveau mes chroniqueurs dans le studio 521 de la Maison de la Radio. Aujourd'hui, à ma gauche, notre libraire gourmande Déborah Dupont. À ma droite, notre chroniqueur vin Dominique Hutin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour les amis.
Ça
Bonjour.
Va les amis. Alors Déborah,
Moi je rando sur l'eau.
Ah, vous sortez vos rames.
Exactement.
D'accord, rando sur mer.
Rando sur mer.
Avec une très belle recette à la clé.
Une recette de cuisine à bord.
Très bien, et on va suivre votre sillage. Et Dominique?
1 km à pied, ça use, ça use. C'est le début, vous connaissez.
Ouais, voilà. Très bien.
Alors, sauf, en fait, c'est, la difficulté, c'est que j'ai pris 36 bouteilles aujourd'hui. C'est un tout petit peu lourd dans mon sac à dos.
Ah, bon, bah on va essayer de les vider pour vous.
Ou alors, si on pouvait faire ma chronique dès maintenant, ça pourrait m'arranger.
On va essayer, on va voir ce que l'on peut faire. On va retrouver, vous l'avez compris, Dominique Hutin dans cette émission. On va déguster, reste ouvert pendant l'été. Le samedi à 11h et le dimanche à 11h, double ration donc, dont on va déguster avec de nouvelles émissions toutes fraîches les 5 dimanches du mois de juillet. Pour faire le plein de recettes estivales, de conseils et de bonnes adresses pour le podcast de toutes nos émissions et toutes nos chroniques, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de se mettre en marche, je vous propose une adresse coup de cœur de l'été. Je vous emmène en Normandie, mais pas tout à fait le Cotentin de Dominique Hutin, plutôt ma Normandie, Dominique.
Oui, je vois à peu près. Je vous laisse finir, mais je crois savoir.
Le Pays d'Auge?
Voilà, le 14, le Calvados.
En plein bocage. Alors, pas tout à fait, on est à la frontière, on est dans l'Eure, mais pas très loin du Calvados.
27.
Mais c'est toujours historiquement le Pays d'Auge. Je me suis attablé dans un charmant bistrot qui ne fait vraiment pas semblant dans le village de Cormeilles. Ça s'appelle La Goule et le Pif. La Goule et le Pif. Vous comprendrez bien que...
C'est un peu orienté peut-être.
Ouais, c'est-à-dire que rien qu'à ce nom, j'y suis pas allé pour une préparation nutritionnelle d'avant randonnée. Pas vraiment, en cuisine, c'est Patrick Masclet qui turbine tout seul pour nourrir son petit monde, lequel petit monde d'habitués colonise la salle principale, le premier étage, mais également une terrasse de 15 couverts. Et là, j'ai vu passer sous ma fourchette la terrine de papy dans son plat en terre cuite, l'une des plus belles terrines maison qui m'ait été donné de goûter ces dernières saisons, composée de gorge de porc, de veau, de magret de canard, de foie de volaille, avec un juste assaisonnement et aussi une petite macération au calvados pour la touche locale. Une grosse sole de Port-en-Bessin, on se rapproche de Dominique quand même.
Sur la côte, bien sûr.
Cuite meunière, Accompagné de petits légumes bio et vibrants de fraîcheur, il provenait de la ferme des Gobettes à Saint-Sylvestre. On est à quelques kilomètres de là, des petits navets et des carottes fanes, juste al dente, un peu glacées comme ça, avec une touche de beurre, c'était délicieux. Mais il y avait aussi la côte de veau normande de Jean-Pierre, l'excellent boucher voisin, escorté d'une préparation légendaire que ses clients réclament à longueur de service, ce sont ses pommes de terre. Ah là 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 là, il fait des rondelles fines de pommes de terre, frites, selon un protocole plus ou moins secret, mais un protocole en tout cas ultra rodé, et le résultat est, disons, croustille moelleux. On est, on va dire, entre la pomme chips et la pomme frite. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire un peu des chips épaisses ou des frites fines.
Avec du moelleux et quelque chose de léger au final?
Enfin, léger, c'est frites, mais en tout cas.
Pour la quantité, peut-être.
En tout cas, c'est des rondelles de pommes de terre frites, mais démentielles. On est obligé d'aller au bout du saladier, on peut pas faire autrement. Et en salle, attention, tendez l'oreille, Dominique. Florence, la compagne du chef, verse des jaja que vous ne recracheriez certainement pas. Un seul exemple. Il fait soif. Un grenache croquant, pulpeux, délicieux. C'est un vin de négoce de Maxime François Laurent, qui conduit par ailleurs le domaine de Gramnon, le domaine Gramnon.
On a évoqué ici une ou deux fois par le passé.
Avec sa maman, Michèle Aubéry. Une vigneronne qu'on apprécie beaucoup dans la Drôme et que vous avez déjà évoquée à plusieurs reprises. À noter aussi en dessert les délicieuses glaces et sorbets maison. Le sorbet au marras des bois de Normandie vous plonge carrément la tête dans le panier de fraises. Allez-y, vraiment. Alors vous pouvez y aller au déjeuner pour une formule gamelle avec un plat du jour, un verre de vin et un café gourmand pour 15,50 €. Et on y retourne évidemment le soir pour un ticket moyen de 26-28 € par personne à la carte. La Goule et le Pif, c'est à Cormeil dans le département de l'Eure. C'est ouvert tout l'été du mercredi au samedi, midi et soir. Et si vous y passez, évidemment, vous leur dites bonjour de la part d'On va déguster. Ce premier numéro d'été d'On va déguster a été préparé par Nidia Chougui et Romy Engels, réalisé par Laurent Thomas avec à la technique Elisabeth Collet. La programmation musicale est signée Djoubaka. Et en parlant de musique, justement, je vous propose de faire un petit détour par un terrain en pente avec Alain Souchon. Bel été en pente douce ou en pente raide, hein, c'est selon, sur France Inter.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et des dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'Eure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin, les Anglis et Rouen derrière et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi, et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion bannière, plaisir et souffrance, entre les barrières passe le Tour de France. La gloire a des chemins durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre apprendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut, m'assois, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume.
Non, la bouffe c'est important, mais fumer ça te nique la santé et c'est dangereux pour la flore.
Eh oh, oh, c'est pas parce que tu fumes pas que tu dois priver les autres là, hein.
Ta gueule du coup.
On va déguster.
Voilà, c'est parti pour le petit chemin en forêt. Est-ce que c'est une bonne saison pour la cueillette? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites habituellement?
Là, la saison est un petit peu passée. C'est souvent fin février, début mars qu'on commence à avoir, par exemple, l'ail des ours. Qu'on a aussi l'ortie quand elle est toute jeune. C'est là qu'elle est le meilleur, avant qu'il y ait des fleurs. Au mois d'avril, on a aussi des asperges sauvages par ici. Il faut connaître les bons spots. Là, actuellement, on a quand même quelque chose. D'ailleurs, on va sûrement en voir sur le chemin. C'est de la fougère aigle, en fait. Ça se consomme beaucoup au Japon, notamment. On appelle ça le warabi, là-bas. Et on l'accommode un peu comme une petite asperge sauvage aussi.
Comment vous vous assurez de ne pas vous empoisonner?
Moi, je cueille très peu de choses. Vraiment, uniquement les choses dont je suis absolument sûre. Je ne cueille pas de champignons parce que j'y connais rien. Et si je cueille des baies, par exemple des framboises ou des myrtilles, là pour le coup, je préfère attendre d'être à la maison et je préfère les cuire aussi.
Nous sommes partis en randonnée avec Cléa, non loin de Grenoble, dans le massif de Belledonne. On est entre Saint-Martin-du-Riage en bas et la station de Champs-Rousses en haut. Il faisait un grand soleil cette semaine sur cette magnifique région. C'est notre reportrice Pauline Boulet qui a enfilé les chaussures de Mars et on va la retrouver avec Cléa tout au long de cette émission. Linda Louis, glaner des plantes sauvages, des baies, des petits fruits, ce sont quand même des joies buissonnières auxquelles on s'adonne pendant l'été. Seulement voilà, il y a quand même des règles à respecter. Hein. On ne cueille pas n'importe où et n'importe quoi.
Oui, tout à fait. Donc il y a certaines règles à respecter, comme déjà, comme précisait Cléa, de ne cueillir que ce que l'on connaît vraiment. L'idée, c'est pas de s'intoxiquer pendant la randonnée, on est d'accord. Ensuite, c'est de commencer à apprivoiser 3 ou 4 plantes, des plantes faciles en fait, hein, comme l'ortie, le pissenlit, le plantain ou la berce, qui sont facilement identifiés.
Et c'est encore la saison cet été.
C'est encore la saison, effectivement, là sur les un peu plus en montagne maintenant, mais quoique même en plaine, on peut encore trouver ces plantes-là. Mm-hmm. L'idée aussi, c'est de ne pas en consommer en trop grande quantité. On est en randonnée, donc on va éviter de consommer trop de plantes sauvages crues. Et puis, il y a toujours ce risque d'échinococcose alvéolaire. Donc, par rapport à ça, il faut bien sûr faire très attention et voilà, consommer des plantes plutôt cuites, comme le précisait aussi Cléa.
Éplez-nous échinococcose, s'il vous plaît.
Échinococo, ça s'écrit échino, ensuite il y a un C, C-O-2-C-O-S-E.
Bien joué. Échinococose, c'est un mot assez compliqué, et non, on ne bégaye pas, mais c'est bien l'échinococose, qu'on appelle sinon plus familièrement la maladie du renard.
Oui.
Alors ça touche essentiellement des petits fruits comme les myrtilles, par exemple, qui est vraiment le fruit emblématique de l'été quand on est en montagne, parce que le renard peut faire pipi, en fait, tout simplement.
Finalement, ça peut concerner tous les végétaux.
D'accord.
À partir du moment où renard, en fait, fait ses besoins. Alors, on dit souvent que c'est la maladie dite du pipi de renard. C'est pas du tout, les urines en fait qui contiennent les fameux œufs. Ce sont plutôt les sels.
Mm-hmm.
Donc tous les végétaux qui sont aras le sol de base sont concernés. Mm-hmm. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près qu'une dizaine de cas par an en France de déclarés d'échinococcose. Ce sont essentiellement des agriculteurs, des forestiers. Il peut arriver que ça soit des randonneurs, mais voilà. Après, ce qu'il faut par rapport à tout cela, c'est se dire que seule la cuisson peut tuer les œufs. Donc on part sur à peu près 5 minutes à 60, 2 minutes à 70-80 ou une petite minute à 100 degrés. Là, les œufs sont détruits. Ça, on en est à peu près sûr.
Donc cela veut dire que lorsque l'on cueille en montagne des fleurs, des feuilles, des baies ou des fruits, les rincer à l'eau claire ne suffit pas.
Ça suffit pas, ni même la congélation. Par contre, la dessiccation marche aussi. Mmh. Après, prenons l'exemple, si vous ramassez des myrtilles qui forment un buisson, on va dire, assez haut sur 1 mètre, vous pouvez consommer ces myrtilles. Le renard n'aura pas fait ses besoins vraiment sur la myrtille à 1 mètre.
D'accord.
Donc c'est pareil pour l'ortie, où on peut effectivement récupérer les sommités. Là, il n'y aura pas de risque de consommer des végétaux crus à partir du moment où on les prélève à plus d'1 mètre. En revanche, pour les plantes et les baies qui sont au sol, comme les fraises des bois, mmh. ou l'oxalis petite oseille, qui est une jolie petite plante, mais qui effectivement est vraiment à ras le sol.
Et qui apporte ces petites notes d'acidité dans une salade.
Très sympa.
L'oxalis.
Voilà, il vaut mieux à ce moment-là, le soir quand on se pose sur le bivouac, faire réchauffer ses pâtes, et au dernier moment, quand on les a égouttées, plonger directement les plantes qui instantanément vont être cuites. C'est la manière la plus sécurisée de procéder.
Et voilà. Rappelons accessoirement que ces plantes sont de formidables sources de protéines et de quantités de nutriments essentiels notamment pour la santé du marcheur.
Oui, alors en termes de vitamines, c'est sûr qu'après on ne va pas en manger non plus des quantités énormes pour ressentir un bénéfice certain. Encore que pour l'ortie, une bonne poignée d'ortie, c'est quand même intéressant. Il est très riche en vitamine C et puis surtout en protéines. Ces plantes sont aussi intéressantes pour les fibres. Mais bon, au-delà de ça, c'est aussi le plaisir de glaner ces plantes et puis les inviter dans un repas champêtre. In situ. Voilà.
Pour parer au risque de confusion entre des plantes comestibles et leurs sosies toxiques, des auditeurs nous signalent notamment des outils numériques assez récents qui vraiment rendent service quand on est en randonnée ou en trek. Ce sont des applis en fait d'identification de plantes sauvages. Vous en avez, alors il en existe plusieurs, vous avez une appli de prédilection qui est fiable?
Tout à fait. Alors il y a PlanteNet qui a été instituée par le réseau Tela Botanica. Ce sont des gens très sérieux qui ont réalisé et conçu cette application. J'ai eu la possibilité de les rencontrer lors d'un stage de botanique justement dans le sud de la France aux écologistes de Leuzière. Ils déterminent notamment la forme de la feuille, de la fleur, lorsque vous prenez en photo directement. C'est-à-dire vous prenez en photo une plante et ensuite l'application permet d'identifier les contours de la feuille et de vous proposer des suggestions de plantes. Attention, c'est un outil. Oui. Et donc il faut avoir une approche journalistique, c'est-à-dire je croise mes sources. Ce n'est pas parce que cette application va vous donner une identification probable qu'il faudra à coup sûr consommer cette plante.
Mais
il faut quand même réviser avant.
Elle est quand même fiable. Moi, je l'utilise à titre personnel. Elle a le mérite en plus d'être gratuite.
Oui, je l'utilise aussi, effectivement.
PlanteNet.
Et on indique la zone géographique dans laquelle on se trouve, parce que bien évidemment, on ne trouve pas les mêmes plantes partout. Et on prend en photo et ensuite on compare avec d'autres visuels, ce qui permet de voir les différentes parties de la plante. Et on arrive à croiser les infos et à avoir un résultat assez fiable.
Moi, je le fais avec la laitue, la scarole, pour être vraiment sûr. Bien sûr.
Vous évoquiez la berce, qu'on appelle aussi brocoli sauvage. Des auditeurs nous demandent ce qu'on en fait en cuisine, la berce.
Alors, la berce, à cette époque-là, on n'aura plus les jeunes pousses qu'on appelle pas d'ours, mais les sommités, effectivement, qui forment une fleur agglomérée qu'on appelle brocoli sauvage. C'est un autre nom vernaculaire. Mm-hmm. Donc là, on les fait cuire tout simplement pareil à la vapeur. C'est vraiment délicieux. Sinon, après, en d'autres plantes sauvages qu'on peut trouver, notamment par exemple en bord de mer, on va trouver le fenouil sauvage, la criste marine, la bête maritime, la roquette maritime aussi, le calculier. On va partir aussi, si on reste en plaine, on pourra trouver encore donc des feuilles de violette, la grande oseille, pimprenelle. Enfin, voilà, il y a un florilège de plantes encore, surtout qu'il y a eu pas mal de pluie. Et puis, si on a de la chance, on peut même trouver des champignons en ce moment, des girolles, de la russule et même des amanites des Césars au cours des balades.
Incroyable. La terre sur laquelle on marche est un véritable saladier vivant. Il suffit de se baisser en prenant, encore une fois, on l'a dit, toutes les précautions qui s'imposent. Je vous propose de retrouver Cléa dans le massif de Belledonne avec notre reportrice Pauline Boulet. Elle nous raconte son goût de la cuisine mêlé à celui de la randonnée.
J'ai grandi dans une famille où on avait le goût des produits de saison, plutôt une cuisine végétale.
Ouais, je vous fais parler alors qu'on est en montée. Et alors, tout cet aspect randonnée, montagne?
Alors ça, j'étais très réfractaire à la randonnée quand j'étais petite. Je pense comme toute bonne petite savoyarde qui se mérite, j'ai été mise sur les skis et j'ai été mise sur les sentiers de randonnée très très tôt. Mon papa était alpiniste en plus, donc on m'a bien emmenée en montagne. Je pense que j'ai fait un bon blocage après là-dessus. Et donc j'y suis revenue quand j'étais plutôt une jeune adulte. Et là, pour le coup, j'ai assez vite compris qu'on pouvait associer le fait de manger avec le fait d'être dehors.
Vous voulez dire le fait de manger autre chose que un bout de pain, un bout de fromage ou un jambon fromage un peu sec, un sandwich?
Ça, je vais pas tout en haut si on me promet juste un bout de pain. Ça marche pas avec moi. Non, non, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui en vaille la peine.
Est-ce qu'après cette petite montée, ce serait pas le moment de faire une petite pause?
Ouais, je pense qu'on l'a bien mérité. On va pouvoir se mettre là-bas sous les arbres. Il y a peut-être une souche où on peut s'asseoir. Alors, je vous avais préparé des petites barres de céréales. J'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Donc, j'ai mis des baies de goji, des raisins verts séchés. Donc, elles sont durcies, simplement au frigo, il n'y a pas de cuisson au four. En fait, j'ai fait chauffer le miel, le sirop d'érable et la purée d'amande dans une casserole. Et j'ai mélangé ensuite avec les fruits secs, donc amandes, noisettes, graines de tournesol et sésame que j'avais juste toasté au four, bien à cœur, à 160 degrés, que ça soit complètement torréfié. Et ensuite, je les ai mélangés avec les flocons d'avoine, les baies de goji, les raisins.
C'est vraiment très bon. Le fait qu'il y ait moins de sucre, c'est assez agréable. Pourtant, on pourrait penser qu'il nous faut beaucoup de sucre quand on part en randonnée.
C'est vrai que les gens ont souvent le réflexe d'emmener beaucoup, par exemple, des gros sachets de pruneaux ou d'abricots secs en rando, et puis vite, à la pause, à 10h, de descendre tout le sachet. C'est pas la peine, en fait. Si on a pris un bon petit déjeuner avec des protéines, avec des matières grasses, déjà, on a pas faim. Et puis, on n'a pas besoin de s'injecter du sucre à haute dose quand on randonne, quoi.
On se remet en route ?
Allez, c'est parti.
Pour affronter un coup de barre, rien de tel qu'une barre, Linda Louise, en tout cas la recette que nous proposait Cléa. Et c'est une recette qui figure à la page 49 de votre livre « Je mange bio, même en rando ». C'est vrai qu'une espèce de barre, alors on en connaît évidemment la version industrielle, super sucrée, avec des produits dont on ne connaît pas toujours la provenance. Et on peut, bonne nouvelle, se faire à la maison effectivement ces barres à l'avoine, aux fruits secs, aux oléagineux. Et comme par miracle, cette barre a atterri dans nos assiettes aujourd'hui.
Oui, j'en ai préparé spécifiquement pour vous. Je me suis dit que ce serait intéressant de goûter ces barres, qui effectivement sont intéressantes parce que elles sont pas du tout croustillantes et archi sucrées comme ça.
Ah, mais elles sont moelleuses.
C'est très moelleux, effectivement. On la casse pas, en fait, on la déchire presque. Et c'est pas du tout sucré, c'est très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup aussi l'emballage.
Ouais, absolument. Alors, redites-nous en un mot, parce que évidemment, nos auditeurs peuvent retrouver la recette de cette barre énergétique très appropriée, encore une fois, aux efforts physiques pendant l'été, sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Dans la vôtre, on distingue des raisins secs, effectivement, il y a de l'avoine, il y a des graines de tournesol.
Alors, des noisettes. L'idée, c'est de faire d'abord torréfier les graines de tournesol, les amandes et les noisettes dans un plat creux pendant à peu près 20 minutes, donc à four assez doux, 160. Parallèlement, on fait chauffer la purée d'amandes, donc c'est des amandes qui sont mixées en purée très fine qu'on trouve en magasin bio, du miel ou du sirop d'érable.
Ouais, il faut un agglomérant entre guillemets qui est un sucre. Hein.
Exactement. Ensuite, alors il y a un autre agglomérant qui est intéressant, ce sont les graines de lin qui sont très riches en mucilage, qui une fois mixées au contact de l'humidité du miel et de la purée d'amandes forme un bloc. Et puis on mélange tout ça évidemment avec des flocons d'avoine et on obtient une pâte qu'on tasse vraiment fortement sur un moule carré, on place au frigo et on découpe et voilà, tout simplement.
Parce que alors ce qui est spectaculaire, c'est que les vôtres, elles ont vraiment une forme parfaite de parallélépipède
rectangle.
C'est encore plus dur qu'équinococos. De rectangle vraiment bien aux angles bien affûtés. Et effectivement, Déborah évoquait l'emballage. L'idée, évidemment, quand on fait de la randonnée, c'est de respecter la nature dans laquelle on se trouve. Pas question, bien entendu, de créer de l'emballage sur l'emballage et encore moins de laisser, évidemment, ces déchets sur les lieux de dégustation. Vous avez résolu la question comment ?
Alors, j'ai réalisé ce qu'on appelle des bisvrap. En fait, ce sont des tissus enduits de cire d'abeille que l'on fabrique soi-même. C'est une sorte de papier sulfurisé qui se garde tout le temps, voilà. Et on les enveloppe tout simplement dedans. Donc, ça permet de garder l'humidité. C'est imperméable grâce à la cire d'abeille. Et alors, soit on peut les acheter directement dans les magasins zéro déchet, les commander sur Internet, ou si on veut être encore plus zéro déchet, mais en fait, on les fait soi-même.
Alors, comment on s'y prend ? Les bisvrap, alors, on a compris que bi, abeille, qui veut dire abeille en anglais.
Alors c'est tout simple en fait, sur une table à repasser, vous placez d'abord une feuille de papier sulfurisé,
oui.
Ensuite un carré de tissu, vous égrenez dessus des paillettes de cire d'abeille.
Contre vous ?
En magasin bio ou chez nos drogueries. Vous replacez dessus une feuille de papier sulfurisé et vous passez le fer à repasser et petit à petit, en fait, la cire d'abeille est enduite directement dans le tissu.
Incroyable.
Et puis ça se conserve très longtemps et ça tient assez bien, notamment sur des saladiers, même à la maison. Mais pour la rando, c'est d'autant plus intéressant que ça permet de garder des sandwichs bien frais et on se retrouve pas avec la boulette d'aluminium au fond du sac.
En fait, on arrive à modeler ces feuilles avec la chaleur tout simplement de nos mains. Ça ramollit suffisamment la cire d'abeille pour on peut vraiment épouser les saladiers et tout ça. Et pour les nettoyer, bien évidemment, on met pas de l'eau trop chaude, mais une petite éponge avec un peu d'eau et on arrive à nettoyer ça.
Et ça protège de des. Enfin, moi, j'en utilise à la maison, mais que j'ai acheté. Les faire à la maison, voilà une bonne idée de travaux manuels pour Dominique Hutin quand il rentre dans son Cotentin tout à l'heure. Non, vous en pensez quoi des bisraps ?
Ben oui, je suis tout acquis à cette question-là. Je connaissais pas. Je vous avoue que j'étais tout oui quand je découvre en live.
Ben oui, absolument incroyable. Et si on se réhydratait un petit coup justement avec Dominique Hutin, bon, il se peut qu'il nous casse les jambes en même temps. On va voir ce qu'il nous propose dans nos verres en pleine randonnée.
On va déguster sur France Inter.
Est-ce que le carburant va être à la hauteur de l'enjeu?
Ah ben ça dépend. Si vous êtes en descente, vous avez peut-être besoin d'un petit remontant. C'est possible. Il faut tout envisager. Bon, laissons là les grosses descentes. Non mais quand même, on parlait de il y a peu hein, d'épisodes de chaleur qui sont venus nous rappeler que justement il faut penser à se réhydrater. C'est un geste qui est assez salvateur. Et simplement, en ces périodes d'injonction sanitaire, moi j'aurais voulu en appeler un petit peu à la science pour me faire comprendre. Je veux dire par là que la science nous dit l'humain partage avec le vin d'être à 85% composé d'eau. C'est un point commun. La science nous dit aussi que dans nos veines coulent des globules blancs et des globules rouges. C'est assez convenu. Hein. Heureusement, Jean Carmet, lui, c'était risqué à imaginer qu'il puisse y avoir des globules rosés aussi. Vous voyez un peu où le génie humain va pouvoir se loger dès qu'il est à la verticale d'un verre. Voilà, donc on va en voir de toutes les couleurs, si vous le voulez bien, du vin rosé, du blanc, du rouge, des moelleux même. Mais alors voilà, quand il s'agit de se réhydrater, il ne s'agit pas de boire à n'importe quelle source, un peu comme les plantes sur lesquelles on essayait d'être vigilant tout à l'heure avec votre fameuse application. Je crois qu'on voulait rappeler le nom.
Déborah. Plante nette,
oui, parce
effectivement,
qu'on nous le demande. Et comment ça s'appelle? C'est important pour aller chercher l'appli sur son smartphone.
Donc, @plante, PLANTNET.
Merci beaucoup, Linda Louis.
Alors, retour à pinard.net, si vous voulez bien. Plutôt, non, on va prendre la direction du sud-ouest. Et on va trouver là-bas une mosaïque d'appellations, toutes les couleurs, une espèce de vignoble arc-en-ciel. Voilà. Et ces nuances s'appellent, vous les connaissez pour certaines, Bergerac, Duras, Pécharmant, Montravel, Rosette, Saussignac, et puis très connu, le moelleux de Montbazillac. Un Montbazillac qui est à ce point généreux que Montbazillac est aussi le tien. Je vous laisse réfléchir à cette grande saillie verbale du dimanche matin.
Il est en très grande forme, je ne sais pas si c'est l'air des montagnes. Ah ben ça va, mais votre téléphone sonne, répondez, allez-y Franco Dominique.
C'est un gros cru aujourd'hui. Alors pour autant, c'est pas une randonnée à laquelle je vais vous convier, c'est un marathon parce que j'ai goûté pour vous 36 ans. Et apparemment il y a des séquelles manifestement. Et donc j'ai ouvert trois bouteilles, les voilà. La première, qui nous fait un petit bruit. Il s'agit de trois Bergerac. Alors j'ai choisi des vins d'une manière très très particulière. L'entrée, le premier prix de cette gamme. Oui, vous pouvez faire circuler les bouteilles.
Oui, parce que je me disais que nos verres étaient vides.
Voilà, le premier vin commence à 5,60€. Vous voyez que c'est quand même une manière de ne pas gréver le budget pique-nique. Et puis la question, puisque je vous ai proposé le sud-ouest, c'est pourquoi le sud-ouest? Eh ben, si on repense aux premiers hommes, ceux des origines, avant d'être sédentarisés, forcément, ils ont connu l'itinérance, qui a dû être l'occasion d'un certain nombre de pique-niques d'anthologie. Et donc, là, on est dans le Périgord, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, qui sont parmi les berceaux de l'humanité, soit bien avant l'invention de la pizza à l'ananas ou la chocolatine. D'ailleurs, à ce propos, chocolatine, je ne comprends pas pourquoi on le prononce comme ça alors que ça s'écrit pain au chocolat. Il faut qu'on m'explique. Il y a un grand débat.
Ça y est, on relance le débat, on va s'attirer les foudres de nos auditeurs du Sud-Ouest.
Oui, c'est vrai, c'est un grand débat sur les... Mais d'ailleurs, on peut peut-être, puisqu'on est en jour d'élection, épuisons la question une fois pour toutes. Amis auditeurs, vous pouvez vous signaler, faire valoir ce que vous préférez. Je vous donne une adresse mail, c'est françois-régis-gaudry@lachocolatine.fr. Voilà, je pense qu'on va tous sortir grandis de ce débat. Alors, on parlait d'humain il y a deux secondes, et donc mon carnet de vignes, je l'ai fait tourner uniquement en direction de jeunes vignerons qui sont en activité depuis moins de 3 ans. Simplement pourquoi? Pour pouvoir les épauler, parce que les circonstances, évidemment, économiquement, faute de clients, de tourisme, c'était un tout petit peu difficile. On n'a pas épuisé une question. Cette question, c'est pourquoi le sud-ouest? Il y a plein d'autres raisons. Et il y avait cette question du bio qui a été évoquée. Et à Bergerac, Duras, Montbazillac, etc., on est en train d'opérer une réflexion environnementale assez profonde avec un objectif très ambitieux qui est 100% d'exploitation seront engagées dans une démarche environnementale d'ici 4 ans. Voilà, c'est un geste assez fort. Et d'ailleurs, dans mon carnet de vigne, vous allez voir que beaucoup de ces tout jeunes domaines, d'emblée, sont entrés dans la carrière en choisissant un parcours ou de bio, enfin en tout cas des labels environnementaux pour accompagner leur travail. Et puis ce sera aussi l'occasion d'aller à la rencontre de ces domaines et de s'apercevoir, chère Déborah, pardon, qu'il y a beaucoup, beaucoup de vigneronnes qui sont à la manœuvre. Voilà. Et donc dans ce même carnet de vignes, en face de chacun des noms de domaines, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la somme d'initiatives touristique, parce que ces gens-là, ben voilà, oui, ils sont dans les starting blocks pour vous recevoir. Et si vous êtes loin de Bergerac, retenez juste une date, 26, 27 juillet, tous les vignerons indépendants de France vous accueillent pour un pique-nique sur leur domaine. Toutes les informations sont sur notre site France Inter, on va déguster.
Gros boulot à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster. Une soixantaine de bouteilles, c'est ça?
36, c'est bien déjà.
Ah non, 36, oui, oui. Goûter dans une fourchette de prix tout à fait raisonnable.
Oui, oui. Et je précise quelque chose d'important, beaucoup de ces vins auraient la place sur des cartes de restaurants. Le Clos d'Orsignac, un de mes favoris, 8 euros, mais ça commence à 5,60. Formidable.
On ne voudrait pas sous-entendre que Dominique Hutin est hors sujet, évidemment, dans cette émission, mais Linda Louis, vous ne préconisez pas la consommation d'alcool, même très réduite, en plein effort physique, en montagne, sur
non,
le littoral.
Non, mais arriver tout en haut de la montagne, un petit canon de Genépi, ça peut le faire, je pense, quand même.
Voilà, ouais.
La récompense, quand
mais
même.
Évidemment, avec dégustation. Merci beaucoup. Je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve dans la foulée. Georgia Smith, je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse-compositrice anglaise, Kiss Me in the Morning, tout un programme. Et c'est la bande originale aussi de The Heady. Vous l'avez peut-être vu, cette série de Damien Chazelle diffusée sur Netflix. On est d'humeur jazzy ce matin sur France Inter.
Tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving, it never stays away from right. So if you kiss me in the morning, oh, you better close the night. And I wake up with this feeling and my body aches for you, and I know
Alors on a une vue incroyable, un panorama à plus de 180 degrés.
Alors là on est dans le massif de Belledonne, donc face à nous on a un autre massif qui s'appelle le Vercors, qui nous amène vers le sud, vers la Drôme. Au pied du Vercors on a la ville de Grenoble, la Chartreuse à droite. Et devant nous, au premier plan, on a les collines des petits villages de Saint-Martin-du-Riage et de Volnavet, Villeneuve-du-Riage en face.
Et oui, nous sommes non loin de Saint-Martin-du-Riage, à deux enjambées du marais de des Séglières, dans le massif de Belledonne, sur un belvédère avec vue panoramique, vraiment face au Vercors, face à la Chartreuse, Dominique.
Oui. Vous pouvez boire avec les yeux si vous voulez. Mais il y a aussi la chartreuse verte et la jaune.
Mais c'est aussi un massif.
C'est aussi un massif, oui.
Qui est toujours d'ailleurs le lieu de production de cet élixir mythique.
Oui, qui est mythique, c'est vraiment le mot. C'est entouré d'un secret, les pères chartreux. Et il y a une espèce de petite secte d'adorateurs autour de cette liqueur vraiment fantastique. Alors qu'il n'est pas tout public. On a un peu échangé hors micro avec Déborah. Le plateau est partagé, mais je crois qu'il faut l'avoir goûté pour se faire un avis, en tout cas. Ça ouvre un spectre de goût tout à fait nouveau.
Très bien, manger et cuisiner quand on fait de la randonnée, c'est le premier thème d'été qu'on aborde dans On va déguster avec Cléa, qui est donc en randonnée avec notre reportrice Pauline Boulet dans le massif de Belledonne, et dans le studio 521 de la Maison de la Radio, Linda Louis. Vous êtes toutes les deux co-autrices de Je mange bio, même en rando, aux éditions Terre Vivante. Dans un instant, on va avoir affaire à une petite leçon de cuisine sur réchaud, une petite dinette comme ça, mais juste avant un point, parce que beaucoup de nos auditeurs nous demandent quelles sont les conditions pour faire du feu l'été en plein air, avec évidemment les risques que ça implique. On le sait, il est tentant de transporter dans son sac à dos un petit réchaud ou carrément de ramasser un peu de bois pour se faire un feu. Quelle est la réglementation en la matière, Linda Louis ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les feux sont interdits en forêt, peu importe les saisons. Donc ça c'est immuable, voilà, c'est interdit de fumer aussi, je le précise quand même aussi. Si je cite le code forestier, donc il interdit de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à 200 mètres des bois, forêts, plantations, landes et maquis. Donc dans les forêts privées, les propriétaires ont le droit de le faire. Il faut savoir qu'en France, il y a aussi 75% de forêts privées. Donc lors des randos, il est tout à fait possible qu'on se retrouve à arpenter un chemin privé. Mais de manière générale, pas de feu en forêt.
Donc quand on dit pas de feu, ça veut dire pas de briquet, pas de réchaud, pas de feu avec du petit bois de combustion.
C'est ça. Donc là, je parle d'un feu de camp. On va glaner du bois et lancer le feu comme ça. Par contre, on a le droit de faire un feu avec le réchaud. Donc là, on est sur un combustible type gaz. Donc là, c'est tout à fait possible. Toutefois, il faut vraiment se renseigner dans les préfectures et dans les offices de tourisme des régions dans lesquelles vous allez randonner, parce qu'il y a des exceptions. Il y a certains parcs naturels. Alors déjà, dans les parcs naturels, c'est quasiment interdit de faire des feux, ça c'est sûr. Mais sur l'utilisation du réchaud, c'est très variable, que ce soit le parc de la Vanoise ou le parc des Écrins, des Cévennes. On n'a pas du tout la même réglementation. Donc avant de partir en rando, quand il est question du feu, on se renseigne avant.
C'est ça. Et on utilise effectivement un petit réchaud en se renseignant bien sur toutes les précautions qu'il faut prendre. Quand on a le droit de faire du feu avec quelques matières combustibles, gare à la pomme de pin par exemple.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la pomme de pin est assez riche en essence de térébenthine, donc elle peut être intéressante en guise d'allume-feu, mais on ne va pas constituer des braises avec, puisqu'elle va dégager une fumée noire toxique qui peut effectivement polluer les aliments, ce serait un peu dommage. Par contre, ce qui est hyper important quand même, c'est qu'on fait plutôt son feu sur une surface rocheuse, un sol dénudé, loin des racines et des branches d'arbres et des souches, et puis il faut l'entourer de pierres, et évidemment avoir de l'eau à proximité. Il faut quand même faire attention, même avec un réchaud, on ne sait jamais, il peut y avoir un éclat. Voilà. Faut faire attention dans tous les cas.
Alors. Quand on a oublié son briquet ou ses allumettes, est-ce que vous pourriez jouer les MacGyver pour nous ou techniques de survie ?
Il faut avoir une loupe. Vous avez en fait un petit carré fait avec de la couverture de survie. Et ben, par contre, il faut qu'il fasse soleil. Mais si vous utilisez le soleil qui se reflète sur un tout petit fagot de paille ou de plumée, de pissenlit ou de roseaux, effectivement, qui sont très secs, des plantes très sèches, là, effectivement, on peut faire partir un feu. On a des allumes-feux naturels, hein, comme les tiges sèches d'ortie. Alors, ce sont pas des allumes-feux, ce sont des comburants, on va dire, qui sont très faciles à partir. Comme les tiges sèches d'ortie, les fougères, les écorces de bouleau, là, pour le coup, l'écorce de bouleau, là, ça part tout de suite, ça flambe directement, donc ça, c'est intéressant. Elle est très fine et surtout très riche aussi en essence de térébenthine et puis en goudron. On fait notamment du bread bouleau, du goudron de bouleau, c'est dur à dire, avec. Donc voilà, avoir un petit morceau d'écorce de bouleau dans la poche, c'est toujours pratique.
Très bien, on va retrouver Cléa justement sur les sentiers du massif de Belledonne. Elle avait un réchaud dans son sac à dos pour préparer deux petits plats, un salé et un sucré. Vous allez voir les prouesses que l'on peut faire sur quelques centimètres carrés de gaz.
J'ai prévu de quoi faire une recette un peu deux en un. C'est soit on fait un chocolat chaud qu'on boit chaud comme dessert, par exemple par temps frais, c'est super. Soit on le prépare avant de commencer à manger notre repas et on le laisse se solidifier un peu. Et là, ça va nous faire une crème dessert.
Moi, je partirais bien sur la crème dessert.
Ouais,
qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça me va bien aussi.
Ça, c'est la mini bouteille de chartreuse parce qu'on est quand même dans les Alpes, on est en Isère et j'aime bien en ajouter sur les desserts au chocolat. Donc voilà, le petit péché mignon en rando, il en faut.
Oui, c'est une mini fiole. Bon, la chartreuse, rappelons-le, hein, qui est quand même à 55 degrés d'alcool.
Oui, non, mais c'est super bon avec le chocolat. J'ai fait un mélange avec du cacao en poudre, du sucre complet, des pastilles de chocolat noir, des pastilles de beurre de cacao. J'ai mis un peu de vanille et de fleur de sel et il y a un petit peu de fécule de maïs pour épaissir. Donc j'ai besoin d'ajouter 25 centilitres d'eau.
Ça sent hyper bon. Déjà sec comme ça, c'est le cacao là qui m'emplit les narines alors qu'on est au cœur de la forêt, sous les arbres. C'est assez étonnant, mais je pense qu'on va se régaler.
Ça se mélange avec la résine des pins. Ouais, c'est super sympa.
Quand on prépare un petit peu à l'avance son repas, au niveau vraiment nutritionnel, à quoi il faut faire attention ?
J'éteins la chaux. Il faut faire attention à boire, à beaucoup boire. Il ne faut pas attendre d'avoir soif, il faut boire plus que si on était à la maison. Donc facilement 3 ou 4 litres d'eau par jour, par personne. Le plus pratique, c'est d'avoir accès à des sources. Souvent, elles sont marquées sur les cartes topographiques. Donc ça, c'est vraiment l'idéal parce qu'on peut se ravitailler en eau en cours de route. Par contre, moi, je préfère emmener pour boire de l'eau de la maison, surtout quand je pars à la journée. Par contre, l'eau des torrents, en faisant attention qu'il n'y ait pas un troupeau plus en amont, on peut la prendre, notamment pour faire bouillir de l'eau pour des pâtes, pour faire une petite vaisselle, pour faire sa toilette, il n'y a aucun souci. Et puis, côté sel minéraux, moi, je ne m'inquiète pas trop quand on part juste à la journée. En fait, on ne manque jamais de rien. On n'est jamais carencé chez nous. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est super de pouvoir emporter un maximum de vitamines, donc avec les graines germées, avec des fruits, des légumes frais. Et puis, côté nutriments, là, pour le coup, faire attention d'avoir une bonne portion de glucides lents, donc des céréales, par exemple, une salade de petite épeautre, une salade de pâtes ou de riz, des choses comme ça, ou des barres de céréales. Et puis, surtout, moi, j'insiste sur les protéines. Alors, au menu, j'aime bien manger chaud, en fait, dehors, parce que aujourd'hui les conditions sont idéales, mais souvent, on peut avoir un petit peu froid. Et puis, c'est quand même mieux toujours de manger chaud pour la digestion. Et donc, même si j'emmène simplement un sandwich ou une salade, j'aime bien emporter un thermos d'eau chaude ou faire chauffer de l'eau sur le réchaud pour faire une petite soupe, par exemple une petite soupe miso. Donc en fait, à la maison, j'ai préparé ce que j'appelle des balles pour soupe miso. Les Japonais appellent ça miso dama. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai haché à la maison des champignons shiitake déshydratés et des algues sous forme sèche. Et puis ensuite, j'ai fait des petites balles avec ce mélange-là et je les ai roulées dans des graines de sésame toastées. Ça va vraiment fondre et ça va vraiment faire comme une soupe en sachet.
En fait, quand on vient croquer les champignons, ça nous apporte ce sel dont on avait envie après avoir transpiré, avoir perdu du sel justement. On est content d'avoir ça. Ça a presque un goût de noisette, je trouve.
Oui, c'est vrai, c'est le sésame torréfié qui fait ça. La suite, des petits pains qui sont garnis à l'intérieur. Que ce soit du fromage de brebis, de chèvre ou de vache, ou bien le houmous à base de lentilles corail, de pois chiches ou autre, c'est la ration de protéines. En fait, ça fait vraiment un petit déjeuner complet. Ça, plus une boisson chaude, pour moi, c'est idéal.
Et quelque chose dont on n'a pas parlé, ce sont les calories. Est-ce qu'il faut manger plus ou plus souvent ?
On n'a pas besoin de manger plus ou plus souvent. Par contre, souvent le grand air va ouvrir l'appétit. Et autant se faire plaisir puisqu'on s'est un peu dépensé, c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, d'apporter quelque chose en plus, un bon dessert ou d'augmenter un petit peu les portions simplement pour se faire plaisir. Mais on n'a vraiment pas besoin en réalité, c'est un peu tout dans la tête ça. Par contre, si on part en itinérance et qu'on fait beaucoup de kilomètres par jour, là oui, faire très attention aux protéines, aux matières grasses et aux sucres lents.
D'ailleurs, le dessert est en train de...
Le dessert est prêt, je crois.
Oui, je crois qu'il a bien figé, on voit qu'il y a des petites crevasses à la surface. C'est encore un petit peu tiède. Et alors le petit goût herbacé et un peu alcoolisé de la chartreuse, qu'on sent à peine, hein, mais qui relève le tout, c'est incroyable.
Après ça, une bonne sieste et c'est parfait.
Les petites joies gourmandes et végétales de Cléa en vadrouille dans les Alpes. Il y a pas mal d'auditeurs qui se disent, mais on n'a pas entendu parler de chair animale, de viande ou de poisson fumé. C'est vrai qu'on associe souvent, évidemment, les efforts physiques et notamment les randonnées qu'on fait l'été avec des bonnes protéines animales type jambon, viande séchée, charcuterie. On peut tout à fait s'en passer et avoir les apports nutritionnels suffisants en se tournant vers des céréales, des légumineuses, Léa. Linda.
En fait, effectivement, c'est pas nécessaire parce que vous allez retrouver la protéine, des protéines dans les légumineuses et dans les céréales. L'intérêt aussi de ne pas consommer de la viande, c'est que c'est quand même lourd sur l'estomac pendant une rando. Deuxième élément, c'est que la viande se garde vraiment pas bien du tout aussi en rando. Donc, si vous partez sur deux jours, à moins d'avoir un saucisson sec bien affiné, je pense que le reste, voilà, c'est difficilement conservable. Et puis, je pense qu'en ce qui concerne Claire et ce qui me concerne, moi, enfin, c'est que voilà, on se retrouve en pleine nature, on n'a pas forcément envie de manger de la viande, un truc lourd. On a envie connecté aux éléments et donc manger du végétal qui nous apporte dans tous les cas la protéine.
Voilà. Alors on le redit parce que ça réagit pas mal sur le bouton intervenir sur l'appli mobile France Inter. On n'encourage évidemment pas nos auditeurs à faire du feu. On vient de dire exactement l'inverse. On a passé 5 minutes à raconter effectivement les précautions qu'il faut prendre si on veut faire usage ne serait-ce que d'un petit réchaud, hein, Déborah.
Oui, tout à fait. Et Linda nous signalait aussi qu'il existe un site internet qui permet d'avoir toutes les recommandations.
Oui, alors c'est le site prévention-incendie-forêt.com.
Voilà, comme ça.
Ça sent pas un peu le brûlé, là?
Les choses sont, les choses sont dites. Et clair, oui, il y a Dominique au fond du studio qui a fait un petit feu de joie. Cléa évoquait aussi une source de sucre lent quand on est en randonnée. C'est cette délicieuse salade qui circule autour du plateau dont on va déguster. Une salade de petite épeautre aux légumes rôtis. Intéressante nutritionnellement et encore plus intéressante gustativement, elle est fameuse avec cette texture.
Oui, alors le petit épeautre est intéressant parce que déjà c'est un sucre lent, donc en fait on va pouvoir reprendre des forces tranquillement et en plus continuer les efforts durablement. Pourquoi des légumes rôtis? Parce que les légumes crus sont pas forcément digestes, ne se conservent pas forcément bien, ils vont mariner, macérer. Donc il y a une meilleure digestibilité, le côté rôti c'est pour le côté gourmand. Donc dans sa recette, Claire, c'est très simple, elle a fait tremper donc du petit épeautre pendant 8-10 heures dans de l'eau, ensuite on fait cuire pendant 30 bonnes minutes. Et parallèlement, on a pris un beau fenouil, on l'a émincé finement, on l'a disposé dans un plat gratin. On a pris une aubergine coupée en dés, un poivron coupé en quatre. Oui. On émiette dessus 200 grammes de feta, des amandes, et on laisse rôtir au four pendant à peu près une demi-heure.
Avec la feta. Preuve que ce fromage grec peut aussi se manger cuit.
Il est délicieux cuit, en plus il a une concentration de saveur qui est encore meilleure.
Et un petit jet de citron peut-être pour donner du peps à tout ça, non?
Alors, à la fin. Entre-temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la peau du poivron qui a été coupé judicieusement en quatre.
Oui.
Et ensuite, on l'émince, on le mélange avec le petit épeautre, on ajoute du miel, de la moutarde, de l'huile d'olive, du jus de citron. Et puis moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est aussi de l'origan que je vous ai apporté, justement, François-Régis, parce que ça apporte un petit côté méditerranéen à cette salade qui est vraiment délicieuse.
Ah non, cette salade est absolument incroyable. Ça nous change en plus des faux taboulés que l'on fait, vous savez, c'est semoule trempée qu'on met dans des tupperwares en plastique. Là, on est sur une salade de petit épeautre et ce petit épeautre a une texture formidable sous la dent, un peu rebondissante, un peu élastique.
Oui, tout à fait, un peu élastique.
Bon, c'est même vrai que si
cette céréale contient du gluten, mais avec un taux de gluten qui est beaucoup moins important, on va dire, que d'autres céréales qu'on va trouver, ou que d'autres blés qu'on va trouver au supermarché qui cuisent en 10 minutes. Là, on se retrouve avec une céréale qui est vraiment intéressante, aussi bien au niveau de la mâche que du goût.
Ouais, c'est vraiment une très belle prouesse. Bravo pour cette recette de salade qu'on retrouve là aussi sur franceinter.fr à la page On va déguster. Je vous propose de passer de la montagne à la mer, et celle qui s'occupe du voyage, c'est notre chroniqueuse Déborah Dupont.
France Inter. On va déguster.
Alors Débo?
De la rando au bateau, il n'y a finalement pas grande différence.
Quelques rames, en plus.
Quelques rames. Mais préparer un avitaillement pour quelques heures ou quelques jours en mer reprend exactement les mêmes problématiques que lorsque l'on part avec un sac à dos. Le poids des ingrédients. La difficulté à trouver de l'eau douce, des moyens de cuisson limités, pas de possibilité de stockage au froid. Et effectivement, la question de l'avitaillement peut poser problème. Et généralement, les personnes ne savent pas quoi faire. Mais Nous avons la solution avec l'éditeur Vagnon. Donc l'éditeur Vagnon, tous ceux qui font un peu de voile le connaissent puisque c'est vraiment l'éditeur de tous les codes maritimes, de toutes les l'accastillage, enfin de tout ce qui concerne vraiment le monde de la voile. Et ils ont édité il y a plusieurs années maintenant un guide de la cuisine à bord. L'auteur Michel Meffre est une navigatrice. Elle a fait plusieurs fois le tour du monde en voilier et en famille. Mmh. Et finalement, au bout de 20 ans, elle est allée s'installer en Tasmanie. Alors ça nous place tout de suite le décor, la Tasmanie, je rappelle, petite île au sud de l'Australie, donc on est vraiment...
Dominique. Oui, mais je connais tous mes départements.
Donc de nombreuses recettes de cet ouvrage sentent bon les tropiques, et la cocotte minute est régulièrement utilisée. La cocotte minute, c'est vrai que c'est cet outil magique dont on a déjà parlé régulièrement dans cette émission. C'est pour moi l'ustensile le plus écologique, c'est fait en inox, il n'y a pas d'obsolescence programmée.
Peu de dépenses d'énergie parce que c'est des cuissons en général assez rapides.
Hein. Exactement, peu d'eau. Le fait d'être sous pression, sous vapeur, fait que on utilise effectivement peu d'eau, peu d'énergie. Ça concentre les saveurs et franchement, c'est l'équipement de base sur un voilier.
Vive la cocotte minute.
Vive la cocotte minute. Et la cocotte minute, je vous l'avais déjà dit aussi, on peut faire des gâteaux avec.
Non mais incroyable. Et le gâteau que vous nous avez préparé a été fait en...
Tout à fait, une pièce montée pleine de crème parce que la crème aime la chaleur. Donc non, j'ai préparé un cake aux fruits qui pourrait d'ailleurs tout à fait fonctionner pour de la rando parce que c'est un cake qui est très plat.
Oh, c'est bon, il y a des cerises.
Il est délicieux.
Non, il n'y a pas de cerises.
Qu'est-ce que c'est, ces fruits un peu confits?
Raisin.
Alors, il y a du raisin.
Il n'y a pas des petites cerises séchées?
Non, ce sont des cranberries.
Ah, des cranberries.
Oui.
Mais il y a ce côté un peu acidulé, je n'étais pas si loin.
Tout à fait, pas si loin, mais j'aurais pu effectivement mettre des cerises.
Régal.
Donc, recette très très simple, avec très peu d'ingrédients, 100 grammes de beurre, une demi-tasse de farine à pâtisserie. Mmh. Donc une demi-tasse, grosso modo, on est sur à peu près 100 grammes de farine. Parce que c'est pareil, c'est en bateau, on a rarement une balance de précision, on a plutôt un verre doseur. Une demi-tasse de sucre, donc ça fait à peu près 125 grammes de sucre. Mmh. Une demi-tasse de raisin sec, une demi-tasse d'orange confite et deux cuillères à soupe de fruits confits. Un œuf, un peu de lait. J'avoue avoir rajouté une petite lichette de rhum.
Non mais...
En cachette.
C'est Dominique Hutin qui était dans votre dos.
Tout à fait. Il suffit tout simplement de tout mélanger, de verser dans un moule beurré. Alors, la cuisson à la cocotte minute suppose de prévoir, en fait, d'emballer le moule avec du papier cuisson.
D'accord.
Donc, en fait, moi, j'ai mis tout simplement une feuille de papier cuisson que j'ai fait tenir avec un gros élastique autour du moule. On glisse le moule dans le panier vapeur de la cocotte minute. On met 1 ml d'eau au fond. Et la cuisson se fait en deux temps. On met d'abord le couvercle sans fermer et on fait cuire un quart d'heure, ce qui permet, en fait, de monter un peu à température.
Sans fermer, ça veut dire quand même le couvercle dessus, mais sans obturer.
Exactement. D'accord. On ne met pas sous pression. Et ensuite, on ferme réellement, on met sous pression. Et là, c'est une petite demi-heure de cuisson. On laisse retomber la vapeur. On ouvre ensuite le couvercle et on se retrouve avec un cake qui a vraiment une texture de cake, c'est impressionnant. À la sortie de cuisson, il paraît très très moelleux, très très imbibé. Et en fait, le lendemain, parce que donc là je l'ai fait hier soir, on a une vraie texture de cake, riche en fruits. Mmh.
Pas très haut, il faut le préciser, hein. Il fait 2 cm de hauteur, mais il est pas du tout sec, il est très moelleux.
Très moelleux, oui. On est sur des petites proportions, hein. Je pense qu'on peut doubler sans souci. Pas de levure non plus, parce qu'effectivement, la levure, on en a assez rarement sur un bateau. Et très énergétique, donc avec ça, on tient, parce que c'est aussi important en mer, hein. En mer, il faut avoir le ventre plein, parce que la fatigue, le froid, pour peu qu'il y ait une mer un petit peu agitée, on peut vite être malade, et c'est important de manger aussi équilibré, énergétique, et écolo en bateau.
Et en plus, il est bon, il se tient très bien. Il dans un délicieux. Sac à dos, par exemple. Mmh. Vraiment une belle tenue.
Exactement, le cake de marin de Déborah Dupont. Vous nous rappelez les références de votre livre?
Le guide de la cuisine à bord aux éditions Vagnon.
Merci beaucoup, Déborah Dupont étant notre libraire gourmande. Linda Louis, il nous reste une poignée de minutes.
Oui, je voulais vous montrer les balles énergétiques composées de dattes, de flocons d'avoine mixés et de cacao. Donc là, l'intérêt aussi, c'est d'avoir, en cas de coup de barre, une petite balle à manger.
Comme des truffes.
Voilà, ça ressemble à une truffe. Alors là, je les ai enrobées de faveline. C'est de la poudre de noix toastée. Au mois d'octobre, quand j'étais venue voir, en fait, je vous en avais parlé. Mmh. Et il me restait très peu de poudre de cacao pour envelopper ces balles énergétiques. Et je me suis dit, pourquoi pas avec de la poudre de faveline, ça peut être intéressant.
Régal. Allez, une dernière toute petite recette, car il est possible de faire à la maison et même de les emporter en randonnée. Des tortillas.
Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de faire des tortillas.
On parle pas évidemment de l'omelette espagnole.
Pas du tout.
On parle de la galette.
Voilà, de la galette type wrap. Donc là, il s'agit tout simplement de farine T80, 400 grammes de farine T80 avec 50 grammes d'huile d'olive, 200 ml d'eau tiède. On malaxe, on forme une boule très élastique. Et ensuite, on étale et on fait cuire à la poêle une minute de chaque côté. Et ensuite, on garnit de houmous à la betterave, au poivron. Et là, je vous ai ajouté du pourpier pour avoir la petite saveur aqueuse et fraîche.
Vraiment délicieux.
Et du chèvre aussi, voilà.
Précision, vous nous avez apporté également du Tetra Pak. Je ne sais pas si on a le droit de citer cette marque, mais en fait, que vous récupérez pour finalement
pour
faire un minimum d'emballage.
Tout à fait. En fait, quand on n'a pas de tupperware à la maison et qu'on a encore une brique de lait dans la poubelle jaune, on la récupère, on la rince, on peut conditionner une salade qui sera au frais, puisqu'effectivement, l'emballage est vraiment fait pour que ça soit frais. On ferme avec une pince et le tour est joué.
Génial, et tous ces petits trucs sont à retrouver avec de nombreuses autres recettes dans Je mange bio, même en rando. Éco-responsable, zéro déchet, Cléa et Linda Louis aux éditions Terre Vivante. On se retrouve le week-end prochain les amis, samedi à 11h pour une rediffusion de notre émission sur Yotam Ottolenghi, le cuisinier star israélo-britannique Dominique Hutin, vous en étiez. Et dimanche, une émission sur le thon rouge. On fait le point sur cette espèce de Méditerranée qui cristallise toutes les passions avec Charles Guiriec, expert en pêche durable. On se retrouve le week-end prochain si vous avez encore faim.